Cet après-midi, donc cette première conférence nous est donnée par Florent et Samuel Bénard. Tout à l'heure, en demandant aux personnes à quelle conférence ils allaient, ils me disaient la conférence des deux frères. Oui, deux frères. Je lis la notice donc, qui m'a été confiée. Donc Samuel, autiste, est bibliothécaire pour une bibliothèque municipale de la ville de Paris. Son frère, Florent, alors Samuel est le brun, Florent est le blond, à peu près blond. Hein. Pour moi, on est vite blond. À peu près blond, voilà. Hein. Et il travaille pour la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Il est l'auteur du livre « Mon frère est un extraterrestre ». Vous n'en aviez jamais vu. Eh bien, voilà, un extraterrestre. Je pense que c'est lui. Voilà. Voilà un livre dans lequel il parle de sa relation avec son frère aîné. Et Samuel me disait qu'il ne fallait pas oublier de dire que le livre était disponible à la librairie des sanctuaires, enfin la librairie du Rosaire, et qu'il sera dédicacé juste après la conférence à 15h30. Voilà, bonne écoute et bonne écoute.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Merci d'être ici pour cet échange et ce temps de témoignage. Donc, moi, je m'appelle Florent et...
Moi, je m'appelle Samuel.
Alors, depuis qu'on est arrivé dans le sanctuaire, à peu près toutes les heures, il y a quelqu'un qui se trompe en disant « Bonjour Samuel » en s'adressant à moi.
Et « Bonjour Florent » en s'adressant à moi.
Voilà, c'est pas grave, ça nous va très bien. On est deux frères. Samuel est l'aîné, tu as 41 ans.
Presque 42.
Et moi, j'en ai 38. On a aussi une petite sœur, comment elle s'appelle ?
Hélène.
Voilà, Hélène, et on pense bien à elle. Elle n'est pas avec nous pour témoigner, mais elle fait partie aussi de cette histoire et on en parlera à un moment donné. Aujourd'hui, on est sur les terres de la petite Bernadette. On voulait commencer en vous parlant de, tout simplement de notre maman. Si on est là aujourd'hui, on ne peut pas démarrer un témoignage sans nous parler d'elle. Samuel, est-ce que tu veux bien dire un mot sur maman ?
Notre maman, elle s'appelle Anne, elle est malentendante, elle n'entend pas, elle est sourde.
Voilà, elle a fait elle-même l'expérience du handicap. Très rapidement, ses parents se sont rendus compte qu'elle avait des problèmes pour entendre, et donc le diagnostic est tombé, elle était sourde à 80%. Alors il a fallu pour elle... faire beaucoup de séances d'orthophoniste et d'autres rendez-vous médicaux pour apprendre à lire sur les lèvres. Et puis, au bout d'un certain temps, elle a fini par se faire appareiller. Donc c'est pareil, si notre mère était là, ce serait très compliqué pour elle de nous comprendre. Et donc on a une pensée pour tous ceux qui nous comprennent mal aujourd'hui. Alors, je vous raconte ça parce que ça compte dans notre histoire. Ça compte parce que l'expérience du handicap dont tu vas parler, Samuel, eh bien, c'est une expérience que notre mère et notre père avaient déjà vécue. Et toutes les difficultés que peuvent rencontrer des personnes confrontées au handicap, même si, bien entendu, selon le type de handicap, la réalité peut changer du tout au tout, mais les difficultés, eh bien, notre mère les avait rencontrées. Et au moment d'accueillir son premier enfant, Samuel, eh bien, quelque part, elle avait déjà une petite formation, entre guillemets. Et ça a été très précieux pour toi, Samuel. Hein.
C'était vraiment très précieux, oui.
Alors, Samuel, tu es né en 81,
oui.
Et au début, les choses semblaient plutôt bien se passer.
Très bien se passer, oui.
Seulement, tu avais quelques petites manies. Alors moi, je suis arrivé 3 ans plus tard, donc j'étais petit. Mais quand tu étais enfant, ce que tu aimais beaucoup, c'était aller dans les cimetières.
Avec mon papa.
Parce que dans les cimetières, les choses sont figées. Voilà, on ne fait pas beaucoup de bruit et chacun est à sa place. Et Samuel, ça lui faisait beaucoup de bien. Le deuxième endroit où tu te sentais bien, c'était les églises.
Les églises.
Et le troisième endroit, c'était les laveries automatiques.
J'adorais voir la machine tourner.
Donc, trois lieux de pèlerinage pour notre père qui, très régulièrement, t'accompagnait, toi, quand tu étais encore petit. Et dans ces endroits-là, tu te sentais bien. Quand on n'était pas dans des endroits pareils, tu étais plus nerveux et tu avais une grande, grande angoisse.
Oui.
C'est quelque chose qui te caractérisait quand tu étais petit, comme s'il y avait toujours une catastrophe qui allait te tomber sur le nez.
Comme si Tchernobyl me tombait sur le nez.
Et cette grande, grande angoisse, c'est quelque chose que tu n'arrivais pas à mettre en mots.
Non.
Et du coup, cette angoisse, elle se manifestait dans ton corps.
Oui.
Alors, pour être plus précis, par exemple, je me souviens que quand tu étais enfant, tu te balançais beaucoup d'avant en arrière.
Oui.
Et tu pouvais, pendant...
Même faire les 100 pas comme ça. Donc.
Tu pouvais faire les 100 pas et un petit peu comme un lion en cage, avancer et reculer. Et puis, il y a une autre chose que tu faisais beaucoup aussi, avec, essayer de tourner en permanence ses mains, un petit peu comme s'il avait des marionnettes, mais les tourner, et de manière extrêmement, extrêmement rapide. Et puis, tu te balançais d'avant en arrière, et c'était impressionnant pour moi qui étais ton petit frère. C'était quelque chose de très très marquant. Mais tu allais à l'école.
Oui, j'étais en maternelle et en CP.
Et alors au début en maternelle ça allait à peu près, et puis tu au fur et à mesure on te demandait des apprentissages comme on le demande à beaucoup d'enfants, et c'était difficile pour toi de réaliser ces apprentissages. Et du coup, on t'a fait redoubler une première fois. Et puis, la directrice a convoqué les parents.
Et m'ont viré de l'éducation nationale.
Voilà. Oh. C'était un premier licenciement.
Oh. C'est une honte. Voilà. Voilà.
On est dans les années 80, hein. Les choses aujourd'hui, elles ont évolué. Elles sont loin d'être parfaites, mais elles ont évolué. Mais à l'époque, un enfant comme toi rencontrait des difficultés et la maîtresse n'était pas en mesure de s'occuper à la fois de toi et des autres enfants. Et donc...
Ils étaient un peu à l'écart à l'école. Ils n'avaient pas beaucoup d'amis. À l'école, j'étais un peu éloigné. Comme j'étais beaucoup dans mon coin, comme les autres avaient peur. Oui.
Voilà, les autres enfants avaient peur. Et toi, tu disais que tu rêvais d'une école sans les autres enfants. Alors, ça a été un gros choc pour toi, puisque du coup, ça a été un premier rejet. Une première exclusion.
Je l'ai pris comme un boomerang.
Et puis ça a été un choc évidemment pour les parents qui se sont retrouvés complètement démunis puisqu'il leur a fallu trouver une solution pour toi, leur fils aîné, alors que tu avais 7 ans. Et à l'époque, il y avait peu d'informations sur ce qui était possible pour les parents. Donc ils ont fait plusieurs rendez-vous dans différentes institutions et ils ont fini à force de chercher par trouver un endroit qui te correspondait plutôt bien, qui s'appelle un externat médico-pédagogique, peut-être que ça parlera à certains, un EMP. Et dans cet EMP, Samuel, eh bien, tu as été accueilli.
Et je me suis épanoui là-bas, parce que c'était des enfants comme moi.
Des enfants qui avaient une différence.
Oui.
Et tu avais des enfants qui étaient sans doute avec des troubles autistiques comme toi.
Oui.
Il y avait aussi beaucoup d'enfants trisomiques.
Oui.
Et d'autres types de handicap. Mais dans cet établissement, tu as été heureux et surtout, tu as pu avoir une prise en charge adaptée avec des petits effectifs, alors qu'à l'école, c'était des gros groupes. Tu as un souvenir de l'EMP ?
L'EMP ? Oh, plein de bons souvenirs, oui. J'ai bien aimé.
Et moi, en tant que petit frère, eh bien, ça a été un tournant, puisque d'un seul coup, toi, l'aîné, tu sortais de mon monde. On était dans la même école. Moi, je venais d'arriver à la maternelle. Et toi, tu étais en CP et on te faisait prendre la porte. Donc moi, ça m'a marqué aussi, cette exclusion, cette séparation. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en arrivant à l'EMP, eh bien moi, quand j'ai participé par exemple aux fêtes de fin d'année, je voyais Samuel heureux avec d'autres enfants différents. Et pour moi, ça a été aussi une découverte de rencontrer ce monde-là du handicap et de voir d'autres enfants avec d'autres différences qui pouvaient vivre au quotidien avec toi et dont tu étais l'ami. Après, en tant que petit frère, moi, j'ai été amené assez rapidement, quelque part, à devenir l'aîné de la famille. Apprendre à lire, apprendre à écrire, nager, faire du vélo, tous les apprentissages qu'on fait dans le milieu scolaire, eh bien, moi, j'ai réussi à les faire sans trop de difficultés. Et je voyais bien que toi, Samuel, mon frère aîné, eh bien, tu n'en étais pas capable. Et donc, pour moi, quelque part, il a fallu que j'accepte de passer au-dessus, au premier rang. Alors, ça n'a pas été simple. J'ai fait un gros blocage au moment d'apprendre à écrire, justement parce que je ne voulais pas te dépasser. Il y avait une question de loyauté. Voilà, faire quelque chose que toi, que j'aimais énormément, n'arrivais pas à faire, c'était comme de la haute trahison. Et donc, j'ai mis plusieurs semaines avant d'arriver à accepter de tracer ma route et de faire les progrès dont j'étais capable. Après l'EMP, Samuel, qu'est-ce qui s'est passé ?
J'étais dans un hôpital 2 jours. Voilà.
Qu'est-ce que tu faisais dans cet hôpital ?
J'apprenais à écrire et c'était en fait pour m'insérer dans le monde professionnel et tout.
Et alors, tu étais dans un hôpital de jour parce que à cet âge-là, donc à l'adolescence, tu as été diagnostiqué autiste.
Oui.
Quand tu étais enfant, le mot autisme n'était pas posé. On parlait de psychose infantile et d'autres troubles, mais l'autisme était encore peu connu. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, parfois un petit peu, d'ailleurs,
un peu trop exagéré parfois.
Et à l'époque, l'autisme était beaucoup moins connu, et donc tu as été diagnostiqué tardivement, à l'âge de 9 ans. Et quand tu as été diagnostiqué autiste, eh bien, ça a été un soulagement pour les parents. Parce qu'un diagnostic, ça voulait dire aussi une prise en charge adaptée et pouvoir, du coup, avoir des soins qui soient vraiment appropriés à ce que toi, tu vivais. Et donc, après, dans cette continuité-là, tu es allé à l'hôpital de jour avec d'autres enfants autistes comme toi. Et à l'adolescence, donc tu as fait ton chemin. Et qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital de jour ?
Je faisais des activités, des trucs comme ça. J'apprenais à écrire, j'apprenais...
Tu faisais des ateliers vidéo.
Oui.
Et à cet âge-là, il y a deux choses qui comptaient beaucoup. Je ne sais pas si tu continuais à aller autant dans les cimetières, les laveries automatiques et les églises, mais tu commençais à aller dans les musées.
Dans les musées, oui. Ah, j'allais beaucoup dans les musées avec papa, oui. Voir Van Gogh.
C'était la grande passion de Samuel. Alors là, il y a une exposition qui démarre au musée d'Orsay. Peut-être que tu vas y aller.
Je vais y aller, sûr.
Et ce qui est intéressant, c'est que à un âge où tu t'exprimais encore très très peu, eh bien, tu t'es retrouvé dans la peinture de Van Gogh. Et je pense que si vous avez les tableaux de Van Gogh en tête, le trouble qu'on peut voir assez nettement dans beaucoup de ces tableaux, dans sa manière de peindre et bien sûr dont sa vie porte la trace, et bien toi, c'est quelque chose qui t'a parlé et c'est quelque chose même qui t'a très directement rejoint. Et on peut dire que Van Gogh a été un de tes premiers amis de peinture. Et puis, deuxième chose qui t'a beaucoup plu, et ça nous a rapprochés, c'est le football.
Le foot, oui.
Alors, on est à Lourdes. C'est un lieu. C'est un lieu dans lequel il faut qu'on reste
neutre.
Donc on ne dira pas l'équipe pour laquelle Samuel était. Mais tu aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le football.
Oui.
Et alors là, tu as commencé à collectionner.
Oui.
Tu peux expliquer un petit peu ?
Je collectionnais les images Panini et je les tournais comme ça en boucle.
Ah, tu les tournais en boucle. Oui. Samuel, et c'est un des traits caractéristiques des personnes autistes, ils ont généralement quelques passions, très peu, mais ces passions-là, ils se lancent dedans corps et âme. Et toi, le foot, c'était toute ta vie à un moment, hein.
Donc
plus maintenant, tu as la Sainte Vierge aussi dans ta vie.
Et puis quelqu'un d'autre aussi.
Mais on va en parler. Mais tu collectionnais les images, tu écoutais les matchs à la radio, tu regardais téléfoot. On allait aussi à la messe, je vous rassure, mais Samuel regardait beaucoup téléfoot. Et puis, tu jouais au foot. Et c'est ça qui nous a permis de créer du lien. Et Samuel, tu me dis quoi ?
Je dis qu'il faudrait parler d'Hélène un peu. Hélène, notre sœur, parce que pour elle, ça a été plus difficile que pour Flo de vivre. Au début, je ne m'entendais pas bien avec ma sœur. C'était très compliqué avec elle. C'était dur avec elle parce qu'elle ne comprenait pas ma différence, elle ne comprenait pas mes difficultés, donc c'était très dur avec elle au début.
Je disais tout à l'heure que tu pouvais te balancer d'avant en arrière et faire tourner tes mains.
Et Hélène, elle avait très peur de ça.
Elle avait peur et tu étais impressionnant puisque tu étais déjà grand et costaud.
Oui.
Et puis tu avais 6 ans de plus qu'Hélène.
Oui.
Et puis Hélène, c'était une petite fille qui était pleine d'imagination.
Oui.
Elle inventait plein d'histoires, elle aimait se déguiser, elle était très joyeuse. Et toi, tu étais quelqu'un qui était ancré dans le réel. Tu avais du mal avec l'imaginaire, tu n'aimais pas les jouets. Quand moi, je faisais par exemple des constructions avec des Playmobil, ça ne t'intéressait pas du tout. Et tout ce qui était de l'ordre de l'imaginaire, tu n'arrivais pas à rentrer dedans. Tu étais vraiment ancré dans le présent et dans le réel. Et du coup, avec Hélène, ça a été compliqué. Et ça a été d'autant plus compliqué qu'elle n'aimait pas du tout le football.
Non.
Et autant le football nous a rapprochés, puisqu'on a fait beaucoup, beaucoup de parties de foot ensemble et on a écouté beaucoup de matchs, tous les deux.
Avec Eugène Saccomano.
Avec Eugène Saccomano et d'autres. Autant Hélène, elle était en dehors de cet univers-là. Et donc, nous, quelque part, on a eu une enfance heureuse ensemble.
Alors qu'Hélène a eu une enfance malheureuse.
Et Hélène, elle a eu une enfance, alors je ne sais pas si elle a eu une enfance malheureuse, mais avec toi, ça a été douloureux. Et alors ça, on insiste dessus parce que nous, on vient vous témoigner de notre histoire qui est une histoire de proximité entre deux frères, mais entre Hélène et toi, ça a été violent et conflictuel pendant des années. Et on sait très bien que pour beaucoup de fratries, eh bien, quand le handicap est là, il peut y avoir quelque chose qui se fracture. Et le handicap apporte son lot d'injustices. Quand une personne a un handicap dans la famille, eh bien, les autres membres de la fratrie peuvent avoir l'impression qu'on ne s'occupe que de la personne qui porte un handicap. Et on peut aussi, à juste titre d'ailleurs, se dire que toutes les préoccupations tournent autour de cette personne. Je me souviens même quand tu n'étais pas là, Samuel, eh bien, on parlait de toi parce qu'il y avait des choses à dire sur toi.
Et des mauvaises choses, vous inquiétez pas.
Et les gens nous demandaient toujours comment allait Samuel. Et c'est vrai que souvent, les frères et sœurs, eh bien, ils passent un peu au second plan. Et il y a deux tendances. Enfin, on constate souvent deux tendances dans les journées frères et sœurs qu'on organise avec l'OCH. Soit les frères ou les sœurs s'effacent complètement, elles ne veulent pas en rajouter. Voilà, et on prend sur soi et on ne veut pas faire de vagues en se disant que nos parents ont déjà assez de difficultés comme ça. Soit l'excès inverse, eh bien on va taper du poing et on va dire que nous aussi, on existe. Et on va faire du bruit et on va bien faire comprendre au reste de la famille qu'on a tout à fait le droit d'exister nous aussi. Et voilà, c'est deux réactions qui sont tout à fait naturelles. Mais dans la famille, il y a eu les deux exemples avec Hélène et moi. Et Hélène et toi aussi, vous avez beaucoup souffert de cette impossibilité à communiquer. Nous deux, d'ailleurs, on communiquait peu. Tous nos jeux et nos conversations se résumaient au football. D'accord ? Donc c'était vraiment ça qui nous a tenus. Et puis est venue l'adolescence, et à l'adolescence, l'écart entre toi et moi...
C'est creusé.
Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ?
Bah, ça veut dire que toi, t'allais au lycée et tout, t'allais au collège et tout, t'avais plein d'amis, et moi, je restais tout seul avec papa et maman dans l'appartement, ils n'avaient pas de stage, ils n'avaient rien du tout.
Et ça a été douloureux pour toi, et... Tu as fait l'expérience à ce moment-là de la solitude. Et ça a été douloureux pour la famille aussi, puisqu'on se sentait un peu impuissant par rapport à cette solitude-là. L'écart qui, enfant, était déjà présent, s'est considérablement creusé au moment de l'adolescence. Et du coup, eh bien, Samuel s'est retrouvé encore plus enfermé dans son handicap. On a parlé un petit peu de l'autisme. L'autisme, en complément, c'est aussi souvent une difficulté à communiquer avec les autres, à mettre des mots sur ses propres émotions, et ça crée un vrai trouble dans les interactions sociales. Et au moment de nouer des liens à l'adolescence, eh bien, justement, ça s'est accentué. Et toi, tu avais encore plus de mal à aller vers les autres et à tisser des liens.
Ce qui n'est pas le cas maintenant.
Alors, tu as parlé des stages. Tu commençais à avoir un envie de travailler.
Oui.
Et qu'est-ce que tu voulais faire ?
Je voulais faire travailler dans un métier où je voyais du public. je voulais voir, travailler dans un métier où je voulais voir du public.
Tu voulais voir des gens.
Oui, des gens.
Et donc, tu, au départ, l'établissement dans lequel tu étais, tu as fait faire un stage en espace vert. Et Samuel, et moi d'ailleurs non plus, n'a pas vraiment la main verte.
Non.
Donc, c'est une bonne nouvelle pour les espaces verts de la mairie de Paris. Samuel n'y travaille pas. Par contre, tu as fait un stage en librairie.
En librairie.
Comment ça s'est passé ?
Bien, bien, mais le problème, c'était la vente.
Parce que dans la vente, il y a un rapport commercial.
Oui.
Et pour toi, qui ne savais pas compter,
oui,
et qui ne savais pas non plus écrire,
oui,
eh bien, ça te mettait dans une position délicate. Alors, vers quoi tu t'es tourné ?
Vers les bibliothèques.
Alors, les bibliothèques, c'est assez formidable parce que dans les bibliothèques, eh bien, les choses sont rangées à leur place. Un petit peu comme au cimetière ou un petit peu comme au musée d'Orsay où tu allais voir Van Gogh. Eh bien, les choses sont classées,
ordonnées
et ne bougent pas. Et donc, pour toi, c'était un environnement très sécurisant dans lequel tu pouvais te repérer et dans lequel tu pouvais faire valoir une grande, grande qualité que tu as, la mémoire, puisque Samuel a une mémoire d'éléphant. Et en bibliothèque, tu as été heureux.
Heureux, mais avant, j'ai fait des stages avant.
Alors, tu as fait des stages, tu as fait combien de stages ?
40 stages avant de trouver mon travail. 40 stages.
40 stages. Et 40 stages avant de trouver, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut intégrer une équipe, apprendre un itinéraire, se rendre dans cette bibliothèque, et puis au bout d'une semaine, au bout d'un mois, le stage se termine.
Voir si ça correspond à l'équipe.
Parle bien.
Voir si ça correspond à l'équipe, voir si... et tout.
Et donc, à chaque fois, eh bien, repartir à zéro dans une autre bibliothèque. Et entre chaque stage, évidemment, il y a le retour à la maison et à nouveau des grandes périodes de solitude. Et alors là, tu as rencontré un très bon ami. On a parlé de Van Gogh, qui était un peu ton premier ami de peinture. Là, tu as trouvé un deuxième ami musical.
Johnny Hallyday.
Alors, Johnny Hallyday, qu'est-ce qui t'a plu dans la musique de Johnny Hallyday ?
C'est il crie ses souffrances, il crie ses douleurs, il crie tout ce que j'ai vécu, les souffrances, les peines, tout ça.
Et
il aime les gens comme moi, j'aime les gens.
C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez quelques chansons de Johnny en tête.
On a tous quelque chose de Bernadette ici. On a tous quelque chose de Bernadette ici.
Eh bien, dans beaucoup de ses chansons, Johnny parle de, justement, notamment « Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» C'était une chanson qui te parlait. Et il y a d'autres chansons qui parlent comme ça de la violence sociale. Et c'est vrai que, moi, en tant que petit frère, j'ai été témoin de la grande, grande violence que subissent les personnes handicapées. Parce que on vient de parler des stages, on a parlé de l'école avant. C'est un véritable parcours du combattant pour les personnes handicapées, pour se faire une place dans la société. Et on parle de ça, mais on pourrait parler aussi des préjugés,
des regards, des moqueries, des regards de travers, du mépris et tout.
Et c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux, et c'est quelque chose qui dure, qui s'installe. Et pour toi,
et pour maman,
oui, ça a été difficile. Oui. Et nous, les proches, ceux qui vivons autour de vous, eh bien, on en est témoins aussi. On est témoins de cette violence, et puis on est témoins aussi de cette injustice. Puisque nous, moi je te connaissais et je savais tout ce que tu étais capable de donner. Je connaissais aussi tes qualités et je connaissais ton cœur qui était immense. Et ces choses-là, eh bien, je voyais bien que pour beaucoup de personnes, elles étaient invisibles parce que tout ce qu'elles voyaient, c'était le handicap de mon grand frère. Et ça, pour moi, ça a été, voilà, ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup de, qui m'a fait beaucoup de mal. Et du coup, je pense que ça a renforcé en moi une attention aux personnes qui pouvaient vivre des injustices et être dans des situations douloureuses. Et je pense que beaucoup de frères et sœurs de personnes handicapées grandissent comme ça avec des petites antennes pour peut-être faire davantage attention à ce qui se passe autour et faire attention notamment à ceux qui vivent des épreuves. Alors tu as parlé de Johnny.
Attends, avant de parler de Johnny, je voudrais parler de la suite de mes stages. Donc après mes stages, donc il y a une bibliothèque de où j'étais. Un conservateur qui a fait un vote, il voulait me prendre et l'équipe n'a pas voulu me prendre, donc j'ai pas été pris. Et après j'ai été dans une autre bibliothèque. Il y a une responsable qui m'a dit lance-toi, passe le concours. Et j'ai passé mon seul concours de la ville de Paris et j'étais titularisé. Maintenant je suis fonctionnaire de la ville de Paris. Et c'est ma plus grande fierté, c'est la plus grande fierté de ma famille.
Et je me souviens quand tu es revenu et que tu nous as dit ça,
oui.
on a fait une grande fête après. Et avec ton travail, ça voulait dire une place aussi.
Avec des salariés normaux.
Avec d'autres salariés. Et alors toi, tu avais ce désir de travailler
en milieu ordinaire.
Et c'est, voilà, c'était ton souhait. Il y a d'autres personnes...
Donc, c'est pas possible.
Ou alors qui ne le souhaitent pas,
oui.
Et qui peuvent avoir un travail, pourquoi pas, en milieu protégé. Mais toi, c'est vrai que tu tenais à ce travail en milieu ordinaire. Et alors ce travail, ça t'a permis de beaucoup, beaucoup t'épanouir.
Oui.
Puisque
tu as tissé du lien social aussi.
Et de tisser du lien social. Et du coup, tu as fait énormément de progrès à partir du moment en fait, où on t'a fait confiance. Puisque tu as été digne de confiance en quelque sorte. Et ça t'a donné des ailes. Tu as été accompagné par des collègues qui ont été bienveillants et qui t'ont permis de déployer toutes les capacités que tu avais. Il y a une autre personne qui t'a fait confiance depuis le début, c'est quand même le Seigneur.
Le Seigneur et Marie.
Et on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais tu es très croyant, Samuel.
Oui, très très croyant, oui.
Alors tu étais investi notamment dans foi et lumière.
Et j'ai vécu à l'Arche aussi.
Et donc avec Foi et Lumière et avec l'Arche,
oui.
tu as vécu des temps forts. Et Foi et Lumière, est-ce que tu peux dire un mot sur Foi et Lumière?
C'est pas s'il y a des autres Foi et Lumière ici, mais c'est une communauté qui est formidable.
Et donc Foi et Lumière, ce sont des personnes avec un handicap et des personnes qui ne vivent pas forcément le handicap au quotidien. Leurs amis ou des personnes extérieures qui viennent une fois par mois pour passer un moment fraternel, partager, aller à la messe, partager un repas et faire des activités ensemble. Et donc ça a été un grand, grand soutien. Et puis, tu avais aussi un autre soutien puisque tu es parti à l'Arche.
D'abord, j'ai quitté les parents, qui était une étape importante aussi. Et ma relation avec Hélène s'est apaisée. C'était très important pour moi.
Et tu es allé à l'Arche.
Oui, oui.
Et à l'Arche, tu as vécu. Donc, l'Arche, ce sont des foyers de vie pour des personnes avec un handicap essentiellement un handicap mental. Et donc tu as vécu plusieurs années à l'Arche.
7 ans.
7 ans. Et là aussi, ça a été une grande étape parce que ça t'a permis de vivre avec d'autres. Et donc la grande solitude.
Et c'est là à l'Arche où j'ai rencontré mon meilleur ami.
Abou.
Oui.
Voilà. Et on parlait de la solitude qui était très, voilà, très forte quand tu étais adolescent et au sortir de l'adolescence. Et c'est vrai que à l'Arche et à Foi et Lumière, tu t'es fait des amis.
Et des amis, c'est ce qui m'a permis d'avoir plus d'amis et d'avoir plus de liens et d'être de plus en plus à l'aise avec les gens.
Et cette confiance-là, on la doit aussi à nos parents.
Et à tous les médecins que j'ai vus, les psychologues, les médecins et tout.
Les professionnels qui t'ont accompagné. Il faut quand même dire que quand tu étais plus jeune, il y a un médecin par exemple qui avait dit à notre mère
qui avait dit à notre mère et à mon père, Samuel il trouvera pas, il est incapable, il n'aura pas de travail.
Non, il avait dit que la vie serait trop compliquée avec toi vu ton handicap quand tu étais enfant.
Et vous les mettez dans un centre.
Voilà, il voulait que les parents te laissent dans un centre,
oui.
et que tu qu'ils puissent se concentrer sur Hélène et moi. Oui. Et c'est vrai que ça avait été très violent pour les parents et pour toi d'entendre ça. Mais c'est pour dire à quel point tu as évolué depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Et on parle d'autres.
La preuve que j'évolue, c'est devant un monde fou à l'autre. Je ne m'y attendais pas il y a 40 ans.
on parle de troubles du spectre autistique parce qu'il y a un véritable spectre. Il y a des personnes autistes sévères qui ne parlent pas du tout et qui sont violentes, y compris avec elles-mêmes. Et il y a des personnes autistes Asperger qui sont savants.
Comme Joseph Chovanec.
Joseph Chovanec, par exemple, ou Daniel Tammet, et qui sont extrêmement brillants.
Oui.
Donc on parle de spectre autistique. Et donc, toi, tu as vécu avec cet autisme et tu as progressivement tracé ta route et acquéri des compétences. Et aujourd'hui, ce qui était impensable il y a 30 ans, tu es beaucoup plus à l'aise et tu parles vraiment facilement.
Je suis très heureux dans mon travail, je vis comme si je n'étais pas une personne handicapée.
Et alors, qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour toi dans ta vie ?
Dans ta vie, c'est avec mes amis, avec les gens que j'aime, avec ma famille et tout, être à mon travail et tout, et faire une conférence devant plein de gens à Lourdes. Et être en présence de la Vierge et Bernadette. Voilà.
Moi, ce que je retiens de mon expérience avec toi, Samuel, et c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point est-ce que pour les personnes avec une différence, la vie peut être compliquée, peut être lourde. Et à quel point est-ce que la solitude peut faire des ravages ? Et nous, on a eu la chance d'avoir une famille assez soudée. C'est malheureusement pas la chance de toutes les personnes qui grandissent avec un handicap. Mais cette vie, elle est douloureuse. Mais si elle est accompagnée, si sur sa route on croise des personnes bienveillantes,
les bons médecins, les bons...
des professionnels, mais aussi des amis, des personnes qui vont nous tendre la main gratuitement, eh bien cette vie, elle peut être belle.
Je voudrais m'adresser à deux personnes, je voudrais m'adresser à deux parents, à mon parrain qui m'a beaucoup aidé, à quelqu'un qui se pose beaucoup, c'est ma marraine qui est aussi.
Tu as ta marraine qui est partie il y a quelques années. Et qui a été très importante pour toi.
Et je lui disais cette conférence à Lourdes.
Et, et les parrains et les marraines, justement, ont un rôle très important dans ta vie. Et peut-être que vous-même, vous avez des liens privilégiés avec l'un ou l'autre, ou peut-être que vous-même, vous êtes parrain ou marraine. Et c'est une mission formidable. Et Laurent et Blandine, dont tu parles, ont eu beaucoup, beaucoup d'importance pour toi, et ils t'ont accordé de la confiance et de l'amour. Et c'est ce qui est le plus important, faire confiance, regarder les gens avec des yeux.
C'est ce que donnent maintenant mes trois petits-neveux.
Parce que toi, tu es tonton.
Je suis tonton trois fois.
Et surtout, tu es parrain.
Et je suis parrain. Je suis parrain aussi, moi. Je suis parrain officiel et parrain de confirmation.
Et moi, par rapport à notre présence ici aussi à Lourdes, une chose qui a beaucoup compté, c'est de trouver en fait dans les évangiles, quand j'avais 23, 24 ans, et bien trouver dans les paroles du Christ un écho à ce que j'avais pu constater et vivre aux côtés de mon grand frère. Dans les évangiles, le Christ nous parle beaucoup justement des personnes qui vivent le handicap, des boiteux, des malades, de tous ceux pour qui la vie est compliqué.
Et le pape François dit toujours qu'il faut aider les plus faibles.
Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point est-ce que justement il y a une dimension révolutionnaire dans l'Évangile par rapport à ça, dans le sens où on inverse un petit peu ce que nous dit la société qui va plutôt valoriser l'indépendance et la performance. Et dans les évangiles, justement, on nous invite à aller vers ceux qui souffrent et à aller vers ceux qui sont dans l'épreuve. Non pas parce que ce sera une bonne action, mais parce que dans cette relation-là, il y aura quelque chose qui nous rendra plus vivants et quelque chose qui nous rapprochera du royaume de Dieu. Dans la relation, et moi j'en ai été témoin avec Samuel, mais j'en étais aussi témoin avec beaucoup d'autres personnes qu'on accompagne à l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Et c'est quelque chose, j'imagine, dont beaucoup de personnes ici pourraient parler, et sans doute beaucoup mieux que nous. Et c'est là-dessus que je voulais finir.
Et je voudrais dire un dernier truc avant de dire un dernier. N'ayez plus peur du handicap. Voilà. Voilà. Voilà.
Je peux avoir mon papier. Pardon. Merci. Chers frères et sœurs, voilà, je ne ferai pas. De commentaires sur ce que nous avons entendu, sinon celui de nous inviter à la prière. Et je voudrais demander à Samuel de nous conduire un petit peu dans une prière qui nous permet, eh bien, à la fois de dire merci à vous parce que vous êtes venus, à Marie parce qu'elle nous a invités, et à toutes les personnes qui vous ont fait du bien. Nous prions aussi pour eh bien, toutes les personnes qui sont plus méchantes, souvent parce qu'elles ne comprennent pas le handicap et qu'elles n'ont pas eu l'occasion de rencontrer, eh bien, des personnes comme vous qui ouvraient notre cœur. Alors, voilà, Samuel, vous voulez bien dire une prière avec nous ?
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Bernadette de Lourdes, priez pour nous. Amen. Thank you.